Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Eh ben, le ben grand voilà. Retour.
Voilà. Ça fait un an. Ça fait un an exactement qu'on n'était pas revenu. Là, j'avais noté la dernière, c'était le 28 octobre. Il y a un an. Bon, ça y est, on est vivante.
Nous sommes de retour et le Yiddish est toujours présent. Le
oui.
Yiddish aujourd'hui continue. Voilà. Donc aujourd'hui, on va présenter un livre qui vient de sortir. Qui s'appelle Le Dernier Témoin. Donc, qui est ce dernier témoin? C'est Eva Fastag, Fastag Dobrouchkes, avec le sous-titre Comment j'ai survécu à la caserne d'Ossin et à la Shoah, qui a été. C'est une traduction d'un livre écrit par Peter Serien, avec une préface de Serge Klarsfeld. Alors, on va peut-être un petit peu d'abord parler de Eva, que nous appelions d'ailleurs plutôt Evie. Donc, Evie, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai rencontrée la première fois, mais en tout cas, nous avons travaillé plusieurs années de suite sur des textes yiddish. Alors, c'était une toute petite femme, très mince et très, très vive, très énergique. Donc, à l'époque où je l'ai connue, elle avait 80 ans. Et donc, elle faisait partie de cette, ce qu'on appelle un Leyenkreis, un cercle de lecture. Donc, qui, ça veut dire on prend des textes yiddish et puis on les lit, on les traduit. À ce cercle appartenait aussi bien Régine Waxman et son mari décédé, Albert. Et puis aussi d'autres personnes. Et toi, Astrid, je crois que tu n'en faisais pas partie.
Non, je n'en faisais pas partie. Mais moi, j'ai un souvenir précis avec elle. En 1992, quand on a monté la McGill, elle a fait la translittération à la machine. Elle a réécrit tous ses lieder, tous ses poèmes de Manger qu'elle disait en yiddish et qu'elle a translittéré. Parce que, je ne sais pas, moi je ne savais pas le faire en fait à l'époque, aujourd'hui je sais, c'est elle qui l'a fait,
oui,
et à la machine.
Oui, et Raphaël disait aussi, Raphaël Goldwasser disait qu'elle avait une machine qui est, avec des caractères hébraïques, avec lesquels elle faisait aussi des choses, et c'est comme ça qu'il l'a connue. Donc ça remonte à 92, voilà.
Oui,
donc,
oui, ça c'est la première fois que je l'avais vue, mais c'est tout quoi, après je l'ai moins fréquentée que toi.
Voilà, donc on se réunissait, oui, il y avait aussi Madame Hélène Sieferstein. Et voilà, donc on était un petit groupe et puis Eva était toujours extrêmement rapide et elle avait aussi une mémoire extraordinaire parce que je me rappelle quand il y avait un mot qu'on ne savait pas, et ben elle était capable de le chercher et puis de téléphoner tard le soir pour dire voilà, j'ai trouvé, alors que bon, moi j'avais déjà oublié. Voilà, et donc elle a vécu donc ici jusqu'en 2009 exactement. Et puis, elle avait une fille qui vivait en Israël, enfin qui vit toujours, hein, Yaël, qui vit en Israël. Et cette fille a commencé à s'inquiéter, puisqu'entre-temps, Evie avait quand même 90 ans. Et donc, elle s'est dit, si elle a des problèmes, comment je vais faire? Je dois venir à Strasbourg. Bon, cette Yaël avait des enfants, déjà peut-être des petits-enfants. Et donc, elle a obligé, quand même, on peut dire obligé, Evie, à venir en Israël. Et là, elle a installé dans un kibboutz, dans une maison de retraite. Les débuts ont été très, très difficiles. Mais comme elle était extrêmement énergique, elle a obtenu déjà de pouvoir sortir de cette maison de retraite, d'aller manger dans le grand réfectoire très beau, donc de ce kibboutz Magan Michael. Et puis aussi de suivre des cours d'hébreu, hein, parce que bon, c'était vraiment une femme. Alors je dis c'était parce qu'elle est décédée récemment. Là, elle est décédée en août 2021, donc à l'âge respectable de 104 ans, puisqu'elle est née en 1917. Et donc, voilà, donc elle a obtenu d'aller manger et de suivre des cours d'aller manger dans le réfectoire et de suivre des cours d'hébreu des zulpan, puisque le kibboutz organise des zulpanim pour les gens qui arrivent. Donc elle s'est retrouvée avec des jeunes de 20 ans. Mais c'était vraiment quelqu'un qui était, c'était une vraie intellectuelle. Hein. C'est, je crois qu'on peut dire ça. Déjà, elle maîtrisait beaucoup de langues, le français, le yiddish très très bien, le flamand, l'allemand, l'anglais peut-être moins. Et jusqu'à sa mort, on peut dire, elle a essayé d'apprendre l'hébreu.
Elle trouvait que ça n'allait pas assez vite.
Oui,
j'avais entendu qu'elle se plaignait.
Oui. Elle se plaignait parce qu'elle a déjà commencé des ulpanim à Strasbourg et elle a continué en Israël. Et, bon, et moi, j'allais la voir dans sa maison de retraite et je me rappelle qu'elle disait qu'elle essayait de parler hébreu aux dames là, qui lui répondaient dans d'autres langues. Enfin, bon, et elle essayait vraiment jusqu'au bout de parler hébreu. Et puis, elle lisait énormément. Elle lisait... bon, je me rappelle, la dernière fois que je l'ai vue, bon, elle devait déjà avoir 102 ans, quelque chose comme ça. Elle me dit, ah oui, ben alors le soir, quand je lis, à 2h du matin, je commence à être un peu fatiguée. Elle avait vraiment gardé cette curiosité. Et elle lisait à l'époque l'histoire, le livre de Hariri, qui s'appelle Homo Sapiens, qui est vraiment un livre pas très simple, voilà. Et elle lisait donc dans toutes ses langues, très très facilement. Et elle parlait aussi, elle pouvait s'adresser à vous en français, puis se tourner vers une autre personne, lui parler flamand. Alors, Evie, donc voilà, nous avons évoqué nos souvenirs personnels avec elle, mais il faut savoir, oui, qu'elle a passé donc la guerre dans le camp de Malines. Alors, je vais peut-être parler un peu de l'histoire de ce livre, c'est-à-dire que donc nous savions qu'elle avait passé la guerre dans le camp de Malines, mais pas précisément. Et c'est un historien flamand, un historien belge mais néerlandophone qui s'appelle Pieter Serien qui est allé l'interviewer en 2019 dans son kibboutz, qui en a sorti un livre. Et ensuite, avec Dominique Fritsch, nous avons essayé de faire traduire ce livre en français, parce que nous trouvons que c'est un peu dommage que ce soit réservé à un public qui parle le néerlandais, qui n'est quand même pas une langue très très répandue. Donc, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Donc, nous avons trouvé un très aimable personne, Monsieur Vampar, qui a traduit, qui a fait une première traduction donc, de ce livre en français. Et puis, moi, j'ai réécrit le livre parce que le français n'était pas très, très bon, quoi. Et donc, j'ai réécrit tout ce livre. Alors, ce livre comporte ce que raconte Evie, qui donc avait une mémoire absolument exceptionnelle. Oui, ça, c'était aussi une de ses grandes qualités. Donc, elle raconte vraiment toute sa vie. Hein. Il n'a pas pris que les années de guerre. Il a pris vraiment toute sa vie, comment elle est arrivée en Belgique avec ses parents. Donc là, elle était toute petite. Les années d'école, la naissance de sa sœur, puis de ses frères. Et puis, peu à peu, donc, l'instauration de ce régime nazi. Et les souvenirs d'Evie sont entrelacés avec des rappels historiques donc de Pieter Serien, qui s'est renseigné exactement sur l'histoire des Juifs de Belgique. Voilà, donc Evie a été arrêtée en 1942. Oui, c'est ça. Elle a été arrêtée lors d'une toute première rafle de juifs à Anvers, hein, c'est ça.
À la gare. Hein,
à la gare, voilà. Donc, elle décrit d'abord l'instauration des mesures anti-juives. Donc, ils perdent leurs emplois. Il y a des endroits où ils n'ont plus le droit d'aller. Hein, donc, ça, dès l'arrivée des nazis, bien sûr. Elle arrive quand même à travailler à Bruxelles, puisqu'à Bruxelles, c'est un peu moins rigide. Et ses patrons l'embauchent quand même, bien qu'elle soit juive. Et alors, elle fait tous les jours elle prend le train de Bruxelles à Anvers. Bon, c'est pas très long. Et elle est arrêtée donc le 22 juillet 1942 à la gare d'Anvers avec un certain nombre de femmes. Et donc, elle va être mise dans... D'abord, elle est enfermée quelques jours dans une prison qui s'appelle Breakdown. Et ensuite, elle va être enfermée dans la caserne d'Ossin, qui est à Malines. Alors, cette caserne est vraiment joue pour les Juifs de Belgique exactement le même rôle qu'a joué Drancy pour les Juifs français. C'est-à-dire, c'est un camp de regroupement des Juifs, d'où ils vont être ensuite... envoyé à Auschwitz et exterminé, donc avec très très peu qui sont revenus. Mais elle, comme elle connaît toutes les langues, donc ça c'est, elle est arrêtée donc le 22 juillet 1942 et on demande donc dans cette prison, on demande est-ce qu'il y a des femmes qui savent l'allemand et donc elle sait l'allemand et elle va être embauchée comme secrétaire. Donc, c'est elle qui va faire les listes de, des personnes déportées. Donc, elle prend chaque personne, elle lui demande son nom. Les gens doivent donner toutes leurs affaires. Et puis ensuite, ils sont mis dans des convois. Et donc, elle assiste à tout cela avec un groupe de personnes qui sont des travailleurs de ce camp, dont la majorité ont survécu, mais il y en a qui ont aussi été déportés, c'est-à-dire qui vivaient quand même en permanence avec cette menace de déportation. Et dès qu'il y avait un problème, on leur disait « guest of transport », c'est-à-dire « tu vas partir par le prochain convoi ». Et il y en a malheureusement qui sont partis, dont d'autres secrétaires, dont Eva rappelle... le triste sort, voilà. Donc, elle est restée là-bas jusqu'en 44 et elle a vu passer malheureusement sa famille, donc son père, sa mère et ses trois frères. Et sa sœur, elle, a pu passer en Suisse. Et bon, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle a passé donc 2 ans dans cette caserne.
Voilà, alors là, je peux un peu plus facilement introduire ce que je voulais faire entendre comme musique. En fait... je voulais faire entendre quelque chose qui évoque la Shoah, mais pas en yiddish cette fois-ci, mais en allemand, puisque c'était une des bonnes langues de Eva, et finalement la langue, on peut dire, qui lui a sauvé la vie, parce qu'elle a, fait un travail vraiment affreux, mais du fait qu'elle savait l'allemand, elle a survécu. Donc ce sont ça s'appelle le Stimmen aus Theresienstadt, des voix de Theresienstadt, et pour la plupart, ce sont des chansons écrite à partir de poèmes de Ilse Weber, qui est assez connue et qui est morte à Auschwitz, et qui a écrit beaucoup de textes depuis son enfance. Alors on va écouter déjà la première, Ich wandre durch Theresienstadt, et je parlerai après un petit peu de la chanteuse Bente Kahan.
Ich wandre durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei. Bis je mein Weg ein Ende hat, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp an der Bastei. Dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gern nach Haus, ich möchte so gern nach Haus. Nach Haus, du wunderbares Wort, du machst das Herz mir schwer. Man nahm mir mein Zuhause fort, man nahm mir mein Zuhause fort. Ich habe keines mehr, ich habe keines mehr. Ich wende mich betrübt und matt, so schwer wird mir dabei. Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei, wann sind wir wieder frei.
Oui, alors Ilse Weber a été amenée au camp de Theresienstadt puisqu'elle était tchèque. On sait que c'est surtout des juifs tchèques qui étaient là-bas. Donc de langue, enfin elle parlait le yiddish, le polonais et l'allemand. Et c'est dans ces trois langues qu'elle a écrit des textes. Mais à Theresienstadt, elle a écrit en allemand. Et elle avait envoyé, quand il en était encore temps, son fils aîné en Suède. Ainsi, il a été sauvé. Alors qu'avec son mari et un enfant plus jeune, elle était à Theresienstadt et les trois sont morts. Et on était envoyé à Auschwitz un petit peu plus tard. Alors que son fils aîné, le disque date déjà de quelques années, d'une vingtaine d'années, je dirais, a vécu en Suède et a eu des enfants et des petits-enfants. lui, il a survécu. Et c'est un petit peu l'histoire des parents, de la mère, de Bente Karan, cette extraordinaire chanteuse qui chante dans toutes les langues qu'on peut imaginer, à savoir pardon, le yiddish, le ladino, le polonais, le russe, le norvégien, le hongrois, l'allemand et l'anglais. Et on voit, quand on a l'oreille, à quel point son allemand est parfait. Et je suppose que toutes les langues le sont de la même manière. Sa mère a survécu parce qu'elle a été envoyée en Suède de la même manière. Elle a un passé, elle est née en 58, Bente Karan, mais elle a un passé à travers l'origine de ses deux parents très très lourd, et elle a toute sa vie beaucoup travaillé autour de la mémoire de la Shoah. Son père était un chassid de Satmar, et il a été déporté à Auschwitz, mais il a survécu. Voilà, puisqu'elle est née en 58. Et voilà, et donc et maintenant, elle a vraiment une trajectoire très intéressante, cette chanteuse. Elle habite à Wrocław, Breslau, où elle a créé tout un mouvement autour de la culture juive, probablement en polonais et en yiddish, et un centre de documentation et de culture yiddish.
Voilà, donc je vais déjà dire comment Eva a été libérée, parce que c'est une histoire très intéressante. Donc, sa sœur est partie au début de la guerre. Hein. Donc, Eva décrit aussi très bien l'ambiance comme ça extrêmement anxiogène, évidemment, créée par les premières mesures antisémites. Que faire ? Donc, elle fait partie d'un mouvement de jeunesse à Shomer HaTzair, il se pose des questions. Et puis, on voit aussi comment bascule la vie de ces jeunes gens qui, jusque-là, faisaient des excursions, allaient passer des vacances à la campagne ou à la mer. Voilà, qui menaient quand même une vie assez agréable, même s'ils avaient très peu d'argent, hein, ils étaient plutôt pauvres. Et puis, peu à peu, ces mesures qui s'imposent et qui restreignent leur liberté, et aussi qui vont bien sûr se terminer extrêmement tragiquement. Et donc, sa sœur fait partie d'un groupe qui dit « bon, ben, il faut partir ». Alors, à un moment, il est question de partir en Palestine, et puis là, il est question de partir en Suisse. Et alors, sa sœur bénéficie d'une amie, de la gentillesse d'une amie qui lui passe ses papiers, quoi. Et donc, ce sont des papiers non-juifs, c'est une amie non-juive qui lui passe des papiers non-juifs. Et donc, elle arrive à partir, et elle arrive en Suisse. Contrairement à d'autres, là aussi, il y a des gens qui ont essayé de passer en Suisse et qui ont été arrêtés, qui ont été déportés, mais sa sœur arrive à passer. Et elle passe donc toute la guerre en Suisse. Et à la fin de la guerre, il y a un événement qui est peu connu, c'est-à-dire qu'en Israël, vivaient des Allemands, un groupe qui s'appelait les Templiers, qui était très pro-nazis, et que les Juifs ont mis en prison. Et donc, à la fin de la guerre, se négocie la libération de ces prisonniers allemands contre des Juifs. Et sa sœur arrive à faire inscrire Eva sur la liste des prisonniers juifs qui peuvent être libérés grâce à cet échange, quoi. Et c'est comme ça que Eva peut déjà quitter le camp en juin 44. Et elle va vivre à Anvers, péniblement, parce que bon, elle n'a pas beaucoup d'argent et c'est pas facile. Donc, elle n'a pas assisté à la libération du camp qui a eu lieu en fait en septembre 44, puisque bon, vu l'avancée des troupes alliées, les nazis s'en vont. Alors, la libération s'est faite dans le calme, c'est-à-dire que les nazis sont partis et ont laissé les juifs là. Il n'y a pas eu de. Ils n'ont exécuté personne, ils sont simplement partis. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils vont défendre lors de leur procès, puisqu'il y aura un procès. Et ils vont dire, ben, on n'a rien fait, quoi. C'est-à-dire, voilà, ils ont comme ça une ligne de défense qui a absolument indigné Evie. Elle en parle aussi dans le livre, comment ils ont dit, ben, nous, on n'a tué personne, on était là, on a enregistré des gens et on les a envoyés, mais bon, on ne pouvait pas se douter de ce qui allait leur arriver. Enfin, voilà, ils ont comme ça une mauvaise foi absolument terrible.
Elle est décrite d'ailleurs de manière très intéressante en disant qu'ils sont en fait assez idiots, en un mot.
Oui,
il l'admire beaucoup parce qu'elle sait, parce qu'elle comprend vite, parce qu'elle sait lire et écrire. Enfin, elle ne sous-entend pas qu'ils savent pas lire et écrire, mais qui n'ont qu'une culture, que ce sont des gens très primaires comme ça.
Oui, oui, tout à fait. Puis alors, elle décrit aussi comment elle ose demander des choses, alors qu'à tout moment, on risque d'être envoyé, d'être déporté pour un mot de travers. Et, bon, et puis après, elle conclut en disant, bah, de toute façon, on pouvait aussi être déporté comme ça, donc on pouvait avoir le courage de temps en temps. Par exemple, à un moment, elle demande des légumes, elle demande si elle a le droit d'aller chercher des légumes, donc on la laisse chercher des légumes. Et puis... voilà, donc comme je viens de le dire, elle a été libérée un peu avant la libération du camp. Voilà, alors on va peut-être entendre une autre musique là.
Alors là, c'est une chanson. Bon, si on comprend pas l'allemand, c'est dommage parce qu'elle est relativement longue, mais elle est évidemment très belle. On peut peut-être couper un petit peu avant la fin. Brief an mein Kind. Alors c'est justement Ilse Weber qui écrit une lettre à ce fils qu'elle a confié à quelqu'un pour s'en occuper. En Suède, et qui essaye d'imaginer qu'est-ce qu'il fait à chaque moment, et qui lui dit à quel point elle pense à lui, et qui lui dit, enfin, qui espère qu'un jour elle le reverra, mais alors il sera devenu un grand garçon, et est-ce qu'ils pourront encore parler ensemble, parce que lui parlera le suédois, et elle parlera toujours encore l'allemand, et comment ils vont communiquer. C'est vraiment très beau et très... Alors là, c'est Bente Kahan qui en a écrit la musique, puisque Ilse Weber, au contraire de la première chanson, n'en avait pas écrit la musique. Musique avait seulement écrit le poème.
Et comment ces poèmes ont été retrouvés?
Alors, elle a énormément écrit, et puis il y a d'autres personnes qui étaient à Theresienstadt qui les avaient, qui ont peut-être pas tous, mais certains, et qui ont retrouvé le fils, celui qui a survécu qui en Suède, et qui le lui ont donné, et ça a mis encore assez longtemps. C'est expliqué tout ça dans le livret qui est très bien fait, jusqu'à ce que ça sorte sous forme de volume. Réunissant tous ses écrits. Voilà, donc Brief an mein Kind, lettre à mon enfant.
Mein lieber Junge, heute vor 3 Jahren bist ganz allein du in die Welt gefahren. Noch seh ich dich am Bahnhof dort in Prag, wie du aus dem Abteil verweilst. Und sag den braunen Lockenkopf, neigst hin zu mir und wie du bettelst, lass mich doch bei dir und wie du bettelst, lass mich bei dir. Dass wir dich ziehen ließen, schien dir hart. 8 Jahre warst du erst und klein und zart. Und als wir ohne dich nach Hause gingen, da meinte ich, das Herz müsste mir zerspringen. Gar oft hab ich geweint, das glaube mir, und trotzdem bin ich froh. Du bist nicht hier und trotzdem bin ich froh. Du bist nicht hier. Die fremde Frau, die sich deine angenommen, die wird dann sicher in den Himmel kommen. Ich segne sie mit jedem Atemzug, wie du sie liebst, ist es doch nie genug. Es ist so trüb geworden um uns her, man nahm uns alles fort, nichts blieb uns mehr. Das Haus, die Heimat, nicht ein Winkel blieb, nicht ein Stückchen, das uns wert und lieb. Sogar die Spielzeugbahn, die dir gehört, und deines Bruders kleines Schaukelpferd, und deines Bruders Schaukelpferd. Nicht mal den Namen hat man uns gelassen. Wie Vieh gezeichnet gehen wir durch die Gassen. Mit Nummern um den Hals, das macht nichts aus. Wär ich mit Vater nur im gleichen Haus. Und auch der Kleine darf nicht bei mir sein. Im Leben war noch nie ich so allein. Im Leben war noch nie ich so allein.
Voilà, on ne va pas l'écouter en entier, bien qu'elle soit très belle du début à la fin.
Très émouvante, oui. Alors, je vais lire un passage donc du témoignage de Eva. Comment elle a connu celui qui va devenir son mari, hein. Le troisième homme, donc elle parle d'abord de deux personnes. Oui, je voulais aussi dire qu'elle avait connu là-bas une femme qui s'appelle Irène Avray, qui était peintre et qui a elle aussi survécu grâce à ses talents de peintre, puisqu'elle a, elle a fait des dessins, elle a fait des portraits DSS, et puis elle a aussi fait d'autres peintures. Et donc elle était dans un atelier où elle a passé toute la période de son internement à Dessin, et ensuite elle a écrit ses mémoires. Voilà. Et là, elle parle de deux hommes très sympas, et puis maintenant, elle parle d'un troisième, voilà. C'était un électricien juif. Il faisait partie de ceux qui étaient parfois autorisés à sortir et qui pouvaient faire passer en contrebande des lettres et de l'équipement pour s'évader des trains. Oui, puisque ça, c'est les actions de résistance qu'ils ont fait. Son nom était Abraham Dobrouchkos, mais nous le connaissions tous comme Arnold. Vous pouvez difficilement imaginer cela dans un endroit aussi horrible que Dessin, mais je suis tombée amoureuse de lui. Arnold avait été arrêté et affecté au convoi suivant. Lorsqu'une nuit, le commandant Steckmann n'a trouvé rien de mieux à faire que de se laver les cheveux, au milieu de la nuit. Mais le sèche-cheveux était en panne. Il a envoyé un SS dans l'une des salles pour trouver quelqu'un qui pourrait réparer l'appareil. Arnold, l'électricien, s'est proposé. Le commandant, qui ne comprenait rien à la technologie, ressentit une grande admiration pour ce juif qui avait réparé le sèche-cheveux. Il a demandé à Arnold ce qu'il pouvait faire d'autre. Arnold a expliqué qu'il était technicien radio et qu'il s'y connaissait pas mal en matière d'électricité. Steckmann a alors décidé qu'il resterait travailler à Dessin. Et ainsi, Arnold a été sauvé de la déportation. Arnold pouvait secrètement écouter la radio anglaise dans son atelier. Il nous racontait ce qu'il avait entendu. Grâce à lui et aux conversations qu'Albert Van Keveren entendait au casino, donc au casino, c'est le lieu où se réunissaient les SS, c'est une espèce de, oui, un lieu de détente, nous avons été plus ou moins informés de ce qui se passait à l'extérieur des murs de la caserne. Nous savions que les Allemands traversaient une mauvaise passe. Nous avons entendu parler de la défaite de Stalingrad et des bombardements massifs sur les villes allemandes. Les nouvelles qui nous ont tous gravement affectés concernaient le massacre des insurgés juifs du ghetto de Varsovie. J'avais beaucoup de familles vivant là-bas, tu sais. Voilà, donc effectivement, la famille d'Eva qui était restée en Pologne et qu'elle a encore été allée voir, je crois en 1937, quoi. Elle avait fait un petit voyage pour voir la famille, bien, tout cela ont été assassinés, bien sûr, dans le ghetto. Donc ça montre aussi comment dans les camps, les gens étaient informés de beaucoup de choses. Et aussi, donc, les actions de résistance qu'ils ont faites. Alors, elle a changé les listes. Bon, par exemple, pour mettre des résistants ensemble. Et puis, les ouvriers juifs qui travaillaient cachaient des marteaux, des outils. Voilà, cachaient des outils dans les wagons, ce qui fait que certains déportés ont pu s'évader, ce qui est vraiment très rare, quoi. Et aussi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés et qui disaient qu'ils n'étaient pas vraiment juifs, donc Evie les aidait à se procurer des documents qui montraient qu'ils n'étaient pas juifs, ou elle détruisait les documents qui montraient qu'ils étaient juifs. Donc elle a quand même réussi à sauver pas mal de personnes comme ça, voilà. Donc ces souvenirs que nous avons édités grâce à Serge Klarsfeld, qui l'a très très rapidement édité, et puis que vous pourrez trouver aussi à la bibliothèque de la synagogue. Voilà, et cette héroïque dame là est décédée.
Oui, elle est décédée et elle est enterrée en Israël.
Oui.
Voilà. C'était vraiment une belle personne. Et je crois qu'elle n'a pas vu la version française, n'est-ce pas ?
Non. Alors, en fait, on lui avait envoyé la première version qu'elle a un petit peu corrigée. Mais là, je crois qu'elle avait quand même déjà beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et en fait, elle n'a pas vu cette version, ouais, qui est la version définitive. Mais bien sûr, Serge Klarsfeld en a envoyé un certain nombre à sa fille, qui parle encore très, très bien le français et qui a autour d'elle des gens qui parlent français. Donc... voilà, ce témoignage va persister comme ça. Voilà. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Et merci Lucas.
Shalom aleichem.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Aïe 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 aïe, c'est le bim bom bim bom bim bom bom. Tchidibidi bim bom, tchidibidi bim bom.